99.7 en compagnie de Jim et de mon invité du jour, Patrick. Patrick Kelly. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Patrick, vous êtes mon invité parce que vous êtes hypnothérapeute.
Oui.
J'ai eu l'occasion d'assister à une séance de démonstration, de présentation de l'hypnose.
Et une soirée découverte.
Une soirée découverte, absolument. Mm-hmm. Et qui m'a donné ensuite l'envie d'en savoir un petit peu plus et de vous recevoir dans les studios de Chrono aujourd'hui. Hypnothérapie. Il y a hypnose et il y a thérapie. Dans hypnose, pour la plupart des gens, l'hypnose, ça peut se résumer à quelqu'un qui est sur une estrade, qui fait intervenir un spectateur dans une salle et qui, d'un simple claquement de doigts, fait faire à cette personne un petit peu, à peu près tout ce qu'il veut, faire le chien, enlever son pantalon, etc. Et quelques minutes plus tard, ce spectateur tiré au hasard, mm-hmm. je crois que c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des cas, ne se souvient de rien, remonte son pantalon ou reprend un discours normal après des caquettements de poule ou hennissement d'un autre animal et retrouve une vie normale. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
Alors, ce qu'on peut dire de ça, déjà, vous disiez au hasard, mm-hmm. c'est pas si au hasard que ça. Je prends par exemple un grand showman de l'hypnose de spectacle qui est Mesmer, qui fait de très bons spectacles. Mais il faut savoir que Mesmer, donc, qui est un ancien hypnothérapeute à la base, eh bien, va faire ce qu'on appelle un pré-talk dans la salle et va faire des tests aux gens dans la salle sous forme de jeu ludique. Et il va évidemment calibrer qui va être le plus réceptif. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, lorsque les gens montent sur scène, lui doit pouvoir, en moins de 15 à 20 secondes, les mettre directement en transe.
Donc en quelque sorte, c'est les coulisses d'un avant-spectacle. C'est
en fait, ça se passe en live. Les gens croient mm-hmm. que c'est un jeu, ils vont faire le test des doigts qui se rapprochent, etc. Et le but de l'hypnotiseur de spectacle va être vraiment de pouvoir voir qui va être le plus réceptif.
D'accord.
Et ensuite, il faut évidemment que les personnes qui sont réceptives veuillent bien monter sur scène et que l'inconscient accepte, parce que dans l'absolu, l'inconscient ne va jamais accepter quelque chose qu'il ne voudrait pas.
Mmh. Voilà. De l'autre côté, on a donc thérapie. Et il est vrai que de plus en plus, on prend connaissance que l'hypnose existe dans divers hôpitaux, dans divers établissements de soins, mmh. pour aider en quelque sorte la médecine traditionnelle, mmh. Lui apporter un support supplémentaire pour l'accompagnement d'un patient. L'hypnose, c'est né à peu près au XVIIIe siècle, je crois. Il y a des grands noms comme ça qui
se
sont...
Oui, il y a des noms comme Charcot, par exemple, mm-hmm. Qui travaillait sur les hystériques. Alors, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec la nouvelle hypnose, qui est l'hypnose ericksonienne, dont on parlera peut-être tout à l'heure.
Absolument.
Et après, il y a eu le fameux Mesmer, qui n'est pas celui du spectacle. Hein, c'est lui qui a repris le nom de cet hypnothérapeute. Et Mesmer, et puis ensuite est arrivé beaucoup plus tard Erikson, et puis Erikson a vraiment révolutionné en fait l'hypnose avec des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus ce qu'on appelle les sous-modalités, les métaphores et tout ça, et a amené quelque chose de beaucoup plus doux. Mmh. Et aujourd'hui, les hypnothérapeutes qui travaillent en cabinet utilisent en grande partie l'hypnose ericksonienne. Mmh. Alors, on parle aussi, il y a certains courants, il y a l'hypnose humaniste, il y a l'hypnose hellmannienne, qui sont en fait des mises en transe différentes, mais ça reste quand même à la base de l'hypnose quand même ericksonienne.
Mmh. Voilà. Alors, il y a une citation justement de Milton Erickson, donc le créateur de l'hypnose ericksonienne, qui disait que l'hypnose, c'est une relation pleine de vie qui a lieu dans une personne suscité par la chaleur d'une autre personne. Ça, c'est une définition dans laquelle vous retrouvez vous-même.
Ça me parle. Mm-hmm. La métaphore que moi j'utilise avec les gens est une métaphore d'un de mes professeurs que j'ai eu lorsque je me suis formé. C'est que, en fait, pour moi, les gens, ils arrivent avec une demande, ils veulent quelque chose, et puis je prends leur lanterne. Ils arrivent avec leur lanterne, je prends leur lanterne, et puis je les accompagne où qu'ils veuillent, mais j'y vais, mm-hmm. coûte que coûte, avec tout ce que ça entraîne, les émotions, les pleurs, les joies, tout ce qu'il faut. Et une fois qu'ils ont atteint leur but, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé leur chemin, qu'ils ont pris leur chemin qu'ils voulaient vraiment, mais eux, eh bien, je leur rends la lanterne et je m'efface aussi vite que je suis arrivé. Ça c'est ma vision en fait du thérapeute. Mais chaque thérapeute bien sûr a sa méthode, enfin sa manière de travailler, sa manière de conduire les séances, a son propre style aussi. C'est pour ça que là où j'ai été formé à l'Arche à Paris, on nous donne des bases, on nous donne les boîtes à outils, et après eh bien c'est à nous de créer notre style. Nous ne sommes pas des copier-coller d'un produit, parce que ça ne peut pas marcher comme ça, l'hypnose.
Tout comme n'importe quel autre thérapeute ou prof dans n'importe quelle discipline a sa propre manière ou sa propre vision de son enseignement et sa propre manière.
Oui, par exemple, j'ai une collègue, parce que j'étais à Paris avant d'être installé à Pornic, mais j'ai une collègue à Paris qui travaille sur le Reiki, donc elle est beaucoup plus dans le côté énergétique. On voit que dans ses séances, ça a une connotation différente, ça a une approche différente. Elle, quand elle voit mes séances, elle me dit, et je pourrais expliquer le pourquoi de cela par mon parcours, mais on me dit, tes séances, elles sont assez magiques. En fait, c'est pas la séance elle-même qui est magique. Moi, je dis toujours, c'est l'autre, en fait, qui est magique, parce que c'est lui qui fait son travail. Et ça, c'est un des préceptes en hypnose. Ce n'est pas le praticien qui va faire les choses. Il va être accompagné. Alors, on peut lui donner le nom d'accompagnant, de guide, de canal, enfin, de ce que vous voulez. Mais c'est celui qui vient avec sa demande qui fait le travail. Et nous, on accompagne. Voilà. Alors, pourquoi peut-être est-ce qu'on dit ça de moi? C'est parce qu'en fait, pour venir à l'hypnose, autrefois, j'avais un premier métier qui n'avait rien à voir, mais je faisais aussi en parallèle du spectacle. Et puis, c'était une très forte passion pour moi, et je trouvais ça magique d'emmener les gens, en fait, puisque j'étais prestidigitateur et métamorphosiste. Et donc, du coup, j'emmenais les gens dans un monde de rêve, mais qui était le mien, en fait. Donc, je les extirpais de leurs soucis quotidiens, je les emmenais dans un rêve, mais au final, après, ils retrouvaient leur vie de tous les jours. Et puis, un jour, je me suis dit, mais en fait, on peut peut-être aller plus loin. Et je me suis intéressé en fait au mentalisme, et puis certaines rencontres ont fait que j'ai rencontré l'hypnose. Et quand j'ai découvert l'hypnose, j'ai dit, mais il y a encore plus fort que le spectacle, même si je continue à en faire, mais c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire là. Donc je l'ai d'abord testé sur moi, parce que, alors ça c'est une de mes croyances, mais il me semble important de vivre et de travailler sur soi la matière que l'on va ensuite accompagner comme moi, les gens. Et ça a été une révélation, et je me suis dit, c'est ça l'accompagnement. Et donc du coup j'ai suivi une formation donc à l'Arche à Paris de 4 modules pour devenir technicien puis praticien, et puis après j'ai continué des formations complémentaires pour être installé maintenant à Pornic.
Alors là, je découvre aussi un aspect de votre personnalité et de votre histoire que je ne connaissais pas, c'est les planches, le spectacle, et donc oui, cette notion d'amener les gens dans un univers de spectacle qui est le vôtre et dans lequel vous les faites voyager. À l'inverse, si j'ai bien compris, d'une séance d'hypnose.
Tout à fait.
Où c'est vous qui rentrez dans l'univers des gens.
Alors, le terme « je rentre dans l'univers des gens », c'est, je dirais plus finement, je demande à être invité à rentrer dans l'intimité de la personne. Parce que c'est une notion, après chacun, on a nos valeurs de travail, mais jamais on ne va aller toucher à quelque chose que la personne en face de soi ne veut pas. C'est-à-dire que si, au cours d'une séance, le thérapeute, je vais m'apercevoir de quelque chose qui est une évidence pour moi. Je vais m'assurer déjà que mon intuition est vraiment fondée. Mais jamais je vais dire, au contraire d'autres thérapies, en thérapie brève, je ne vais jamais dire au client, écoutez, voilà, ça vient de là, c'est ceci, c'est cela. Jamais. C'est par un questionnement fin, par des questionnements de alors ça peut être des sous-modalités, des métaphores, ou dire à telle et telle personne, à telle et telle chose, à un moment donné, c'est quoi cette émotion, mais le dire d'une manière bien posée, qui fait que en fait le non-verbal, ce qui se passe, c'est que dans une séance, le non-verbal va parler avant le verbal. Donc si on devance ce qu'on appelle la loi de la demi-seconde, si on devance l'émotion de la personne et qu'on lui dit avec toute la bienveillance, on lui dit, c'est quoi cette émotion? Là, l'émotion, elle explose. Donc, du coup, la personne n'a même pas le temps de s'en rendre compte. Et là, on travaille là-dessus. Et on avance, et on avance, et on avance. Et c'est comme ça que, petit à petit, l'inconscient va accepter que l'on entre, en fait, qu'un étranger, entre guillemets, entre dans l'inconscient. Et puis, va pouvoir écouter et faire son choix. Parce que le thérapeute va proposer. Mais c'est l'inconscient qui va disposer. Enfin, si je peux me permettre cette métaphore.
Mais finalement, il y a... Tout repose sur, j'ai l'impression, l'observation de la personne.
Bien sûr.
Donc ça, ce qui est aussi le propre d'un coach, parce que
aussi, oui,
il y a pas mal de coaching là-dedans. Ensuite, plus que l'observation, il y a sûrement tous les aspects basiques de la psychologie humaine à comprendre. Vous parliez tout de suite de signes, d'une parole, donc là c'est le signal à poser une question pour justement continuer à être invité dans le décor du client. Tout à l'heure, vous avez prononcé le terme mentalisme. J'aurais voulu savoir la différence entre mentalisme et psychologie.
Un mentaliste, il faut savoir que le mentalisme, c'est une des branches de la prestidigitation. Alors, au risque de faire certains mécontents, mais le mentaliste, il a de grandes capacités de PNL, arriver à convaincre des gens.
PNL, c'est la programmation neurolinguistique.
Tout à fait.
Ça, on en reviendra tout à l'heure.
C'est la base. En fait, c'est la base de aussi dans l'hypnose, on l'utilise. Et puis, un mentaliste va aussi l'utiliser. Et on est soi-même bluffé. J'étais samedi dernier à un spectacle à Nantes où il y avait un mentaliste et je suis resté aussi scotché sur le truc. Parce qu'il y a un truc chez les mentalistes. Alors, peu importe, je ne suis pas là pour révéler les trucs des autres, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très bien fait. Et c'est. Après, tout dépend comment le mentaliste va se présenter. Un mentaliste peut se présenter comme un gourou, comme un je sais tout, mais peut se présenter aussi d'une manière simple, ludique, en disant voilà, vous allez vivre une expérience comme ce que j'ai vu samedi dernier. Et c'était vraiment très chouette. Je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est que lorsqu'on est dans le domaine du spectacle, c'est pas tant ce qu'on fait dans le spectacle, c'est vraiment la manière dont on va le véhiculer. Si on le véhicule de manière ludique, en expliquant « oui, je suis pas plus doué qu'un autre, il y a un truc, mais la beauté de la chose, c'est que vous ne le voyez pas, profitez-en, évadez-vous. Et puis, alors que en hypnose donc thérapeutique de cabinet, là, il n'y a pas de trucage. C'est l'être humain à l'état pur. Et là, c'est on avance. Ok, vous voulez aller où? Mais où que vous vouliez aller, on y va.
Et on travaille sans filet aussi, parce que là, c'est pas pour un spectacle, c'est pour la santé émotionnelle, cérébrale, mentale d'une personne. Alors c'est justement, là, on oublie tout ce qui est hypnose de spectacle, hypnose... On se retrouve dans votre cabinet pour vraiment de l'hypnothérapie. Donc il y a des gens qui viennent vous voir afin d'aller mieux. Comment ça se passe une séance type?
Alors je serais tenté de dire il n'y a pas de séance type, parce qu'en fait chaque séance est unique. Même sur une même personne, d'une séance à l'autre, elle est différente. On peut, et même moi au début de ma pratique, c'est une erreur qu'on fait souvent en tant que jeune thérapeute, c'est de se dire bon, la personne, je la vois à cet instant là et puis je la retrouve deux semaines après, etc., et de ne pas faire attention au changement. Et alors c'est quelque chose qu'on recorrige très vite, on s'en aperçoit tout de suite, mais les gens eux-mêmes, une même personne va d'une séance à l'autre changer. Donc les gens viennent avec des tas de demandes. Ça peut aller, ça peut être des phobies, ça peut être des addictions, ça peut être la confiance en soi, ça peut être, ça peut même être des problématiques d'ordre sexuel. Ça peut être, il y a tout. Ça peut être des deuils, ça peut être, il y a tout type de demande en fait. Et à partir de là, je dirais le plus important, c'est que en fait la séance se passe sans qu'on voit les outils qu'on utilise. Donc ça va, si on peut parler de séance type, il y a d'abord ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire c'est un questionnement qu'on va demander à la personne. Alors Cette partie-là est déjà faite en amont pour mon cabinet parce que, en fait, lorsque les gens prennent rendez-vous, répondent à un questionnaire qui va permettre déjà aux gens, quelque part même inconsciemment, déjà de réfléchir. Parce qu'en fait, et c'est ça un peu, je souris parce que la séance, elle commence vraiment au moment où la personne décroche son téléphone pour composer les 10 chiffres du cabinet.
D'accord.
Parce qu'à partir du moment où elle a décroché son téléphone,
c'est cette démarche.
Voilà, elle a déjà fait cette démarche. Et qui est parfois la plus importante pour la personne, la plus difficile. Il y a des gens, par exemple, où je remets ma carte et puis je les ai vus que 3 mois après. Mais parce qu'il faut un temps où les gens décident de faire le changement. Et ça, c'est le pratiquement, je dirais, pas le plus bel acte, mais enfin, pour eux, c'est vraiment le plus important. Ensuite, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent avec leur demande. Donc techniquement, il y a l'anamnèse, donc il y a la partie de discussion où on va voir, faire un peu l'état des lieux. Et puis, ensuite, on va amener la personne en état d'hypnose, où on va mettre en liaison le conscient et l'inconscient, et puis accéder à l'inconscient, et puis lui proposer de faire un travail. Et puis ensuite, ramener comment la personne à l'état normal. Alors, ça c'est encore normal entre guillemets, parce que qu'est-ce qu'est l'état normal ? Est-ce que c'est l'état dans lequel on accompagne les gens ou l'état dans lequel ils sont, entre guillemets, dans la vie de tous les jours? Ça, c'est un long débat. Il y avait un grand hypnothérapeute de Paris, je peux le citer, Jean-François Hirsch, qui disait, en fait, l'état d'hypnose, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas, au final, aller re-éveiller des gens d'un état qu'ils ne veulent plus pour les remettre dans un autre état qui, eux, l'auront voulu? Après, c'est un grand débat. Chacun pourra se faire une réponse, mais je crois qu'il n'y a pas de réponse type. Hein. C'est comme dans les séances d'hypnose, c'est ce que j'explique aux gens, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Il y a leur vérité, il y a leur réponse. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Il y a leur réponse, et c'est le plus important. Et donc, une fois que le travail est fait, donc en état d'hypnose, on ramène la personne à son état de conscience, on va dire. Parce qu'en fait, l'hypnose, au fond, c'est simple, on utilise un état qui existe déjà. Je suis sûr que les auditeurs qui écoutent ce portrait, c'est que ont déjà vécu, par exemple, d'écouter par une émission et puis se dire ah, j'ai pas vu le temps passer, ou de regarder un film et de pas voir le temps passer. Bienvenue dans l'état d'hypnose.
En hypnothérapie, vous travaillez avec l'inconscient de la personne.
Alors,
je crois qu'il faut juste faire une petite parenthèse très très brève et très très simple finalement. Le conscient, c'est la partie éveillée du cerveau par laquelle on goûte, on sent, on voit, on analyse. C'est la partie réveillée, on va dire encore une fois.
C'est la partie éveillée,
de manière très très générale.
D'accord.
L'inconscient, alors l'inconscient, c'est l'usine à rêve, c'est l'usine à sensation, c'est un domaine complètement nébuleux qui crée le sommeil, les phases de rêve aussi.
Je ne suis pas un scientifique, donc j'aurais beaucoup de mal à vous répondre, à vous dire qu'est-ce qu'est vraiment l'inconscient. Parce qu'il faut savoir d'ailleurs que l'hypnose n'a été vraiment démontrée médicalement parlant qu'en 2002 par les neurosciences. En 2002, les neurosciences ont prouvé que l'état d'hypnose n'était pas l'état de sommeil, pas l'état d'éveil, mais un état entre les deux. Après ça, l'inconscient, c'est quoi? Je pense que, vous savez, les gens, enfin, je le vois en cabinet, ils se font des définitions. Il y a des gens, leur inconscient, il est au niveau du cœur, d'autres au niveau de leur poumon, d'autres au niveau du ventre.
Mais vous travaillez sur cette notion.
On travaille sur cette notion, oui.
Entre guillemets, bien sûr, mais d'inconscient. Parce que là, j'ai essayé de trouver un autre mot, j'y suis pas arrivé. Donc, vous travaillez sur cette notion de l'inconscient des personnes que vous accueillez dans votre cabinet. Les réponses des problèmes qu'on cherche à guérir, à se soigner, à améliorer dans la vie se trouvent dans cette partie.
Je m'excuse de vous couper. Guérir, soigner, non, parce que je ne suis pas médecin. Je suis hypnothérapeute, donc sur lequel je vais accompagner.
Accompagner ou être un support, un guide.
Oui, après on peut mettre le mot que l'on veut, guide, accompagnant, canal. Enfin, parfois on est une béquille, enfin, ça dépend. Voilà. Mais oui, on travaille sur cette partie, mais la réponse, en fait, c'est le client qui la trouve. On utilise dans les thérapies brèves aussi ce qu'on appelle le rythmo, qui est un dérivé de l'EMDR, mais que je ne peux pas utiliser comme terme parce que je ne suis pas médecin. Le rythmo, en fait, c'est le retraitement des informations traumatiques par les mouvements oculaires. Mais on utilise également le kinesthésique sur les genoux et l'auditif.
Le retraitement de l'information traumatique par mouvement oculaire.
Voilà.
Donc, on fait bouger les yeux.
Alors, on fait bouger les yeux, mais ça, c'est la partie finale. Lily Ruggieri, donc, qui est celle qui a inventé le rythmo, qui est une hypnothérapeute, a rajouté le côté kinesthésique au niveau des genoux et auditif sur les oreilles de chaque côté, en fait. Et en fait, lorsqu'il y a un trauma, j'en avais encore un ce matin au cabinet, c'est magique, cette technique. Eh bien, on utilise cette technique-là. On demande à la personne qui a ce trauma, sur l'échelle de 1 à 10, à combien elle se situe. Mmh. Eh bien, la personne donc évalue sa souffrance ou sa douleur ou son mal-être sur l'échelle de 1 à 10. Et on fait en fait cette boucle de rythmo avec ce fameux mouvement oculaire. Et à un moment donné, vous parliez tout à l'heure d'observation, c'est vrai que c'est extrêmement important quand on est en séance. Et à un moment donné, on voit que les yeux, en fait, décroche et on sait que clac à ce moment-là c'est le moment et on va mettre en place ce qu'on appelle des suggestions et pour que la personne retraite en fait l'information.
Le mouvement des yeux de la personne qui est assise en face de vous, dans son regard quelque chose change. Elle rentre dans cet état hypnotique.
Alors ça met en état d'hypnose. Hein. Le rythmo met quand même. Alors il y a des gens qui vont dire oui non ça. Pour parler vulgairement, ça met en vrac quand même. Parce que c'est le mouvement oculaire, en fait, il faut savoir que c'est un mouvement naturel que toutes les nuits, l'œil va faire, en fait, de par l'inconscient, mais une vitesse beaucoup trop rapide qu'on ne peut pas faire de manière diurne.
Voilà.
Donc on le reproduit à une vitesse moindre, mais l'inconscient, en fait, comprend qu'il se passe quelque chose, il y a un truc à faire, et c'est magique. Je ne connais à ce jour, en tout cas dans ma pratique, aucun échec avec le rythme. Mmh. Aucun. Et donc la PNL, pour répondre à votre question tout à l'heure, bah la PNL c'est juste une manière de parler un certain langage, c'est des questions que les gens ne vont pas avoir l'habitude de se faire poser. Mm-hmm. C'est par exemple quelqu'un qui vous dit bah, j'aimerais être bien, d'accord. Ok, quand c'est bien, c'est comment ? Déjà, les gens ils commencent à réfléchir. Et en fait déjà ce questionnement-là va emmener la personne dans un état modifié de conscience. Mm-hmm. Quand vous dites à la personne c'est bien, ok, et vous lui posez la question, comment c'est quand c'est bien ? Quand elle commence à vous dire, ah ben quand c'est bien, c'est là, donc dans la poitrine, ok, ça a quelle couleur ? C'est bleu, ça a quelle forme ? Ah ben ça a la forme d'un petit bonhomme de neige, ok, etc. Ben, la personne, quand elle vous dit, à un moment donné, au bout de quelques minutes, que quand elle est bien, c'est un petit bonhomme de neige, qui a un petit chapeau vert, avec un nez en forme de poireau, qui est rouge, etc., vous allez me dire, mais il débloque là, Patrick Kelly. Mais non, c'est juste, en fait, on fait appel à l'imagination de la personne et c'est elle qui dit ces mots. On ne lui demande pas de visualiser ça, on lui demande comment c'est quand c'est bien. Mmh. Donc elle va dire c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et on fait ce qu'on appelle une montée de positif, une montée de valeur. Okay. Et quand on est pour la séance au top, pour elle, pour le jour J, eh bien on crée, alors moi c'est ce que je fais en première séance, on crée ce qu'on appelle un ancrage ressource.
Une sauvegarde ?
Un peu, oui, on peut dire ça comme ça, une sauvegarde. Mais une sauvegarde qu'elle va pouvoir réutiliser, ça va être un point qu'elle va pouvoir réutiliser.
Depuis le début de cet entretien, il y a des mots qui reviennent souvent, et même par maladresse, comme ça a été mon cas tout à l'heure, sur le mot patient.
Oui.
Mais il y a quand même des mots, il y a pathologie, symptômes, thérapie, thérapeute, mm-hmm. etc. Vous obéissez et vous respectez un code déontologique de votre profession, comme d'autres naturopathes, qui est très précis par rapport à la médecine et aux traitements médicaux, à des opérations à venir, etc. Pouvez-vous nous faire une précision sur...
C'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, moi je ne suis pas médecin. Il y a des médecins qui sont ensuite hypnothérapeutes, mais moi je ne suis pas médecin. Et à l'Arche, j'ai signé en fait la charte déontologie de l'Arche, et donc des mots par exemple comme patient, on n'est pas autorisé à l'utiliser. On a des clients, j'aime pas trop ça, je veux dire juste des personnes, parce que je pense que même si ce sont des clients, ce sont quand même des êtres humains avant tout et des personnes. Et donc il y a des mots qu'on ne peut pas dire, il y a des choses qu'on doit s'assurer. Par exemple, lorsqu'on est certifié de l'Arche, on se doit de faire signer ce qu'on appelle le consentement éclairé. C'est-à-dire que toute personne qui va venir dans mon cabinet, d'une part, va déjà signer électroniquement le consentement éclairé, mais va le resigner sur papier, qui explique, vous savez, c'est un peu comme les interventions chirurgicales où tout le monde se défile. Alors là, c'est pas le cas, c'est juste de dire à la personne, elle est au courant, d'une part, que l'état d'hypnose, c'est ceci, cela, et qu'elle déclare aussi ne pas être suivie par un psychiatre, ou que si jamais elle est suivie, d'en avertir comme le thérapeute. Et ça a son importance parce que il est toujours, alors là on va aller peut-être dans un grand débat, mais il est toujours préférable de jouer en équipe que chacun de son côté. Sauf que parfois, eh bien, moi je demande pas mieux que de travailler avec le corps médical, parce que je pense que on y serait gagnant-gagnant pour surtout la personne elle-même. Et je pense que qu'on soit médecin ou hypnothérapeute ou psychiatre, tout le monde est important. On ne peut pas se passer de psychiatre, on ne peut pas se passer de médecin. Et je pense aussi qu'on ne peut pas se passer d'hypnothérapeute quand on fait un travail commun. Et c'est vrai que parfois, moi, je serais très tenté d'appeler les psychiatres ou les médecins qui m'ont envoyé. Alors parfois, des fois, les clients, en fait, viennent, mais sans jamais, en fait, dire à leur psychologue ou leur psychiatre qu'ils viennent. Alors ça aussi, ce n'est pas toujours évident.
Vous notez quand même, Patrick, depuis que vous travaillez dans cette profession-là, qu'il y a une certaine amélioration, un rapprochement entre le corps médical d'un côté et les thérapies brèves de l'autre.
Trop peu. Je pense qu'il va falloir encore quelques années. Le corps médical essaye depuis très 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 nombreuses années de vouloir rapatrier l'hypnose en fait dans leur giron. Bon, moi je suis pas là pour en débattre. Je trouve que on est tous là pour une seule et même chose. Je pense que les médecins sont là pour soigner des gens, les psychiatres sont là pour rendre la vie meilleure aux gens, et je pense que les hypnothérapeutes sont là pour accompagner les gens. On fait tous, je pense, le même travail, pas de la même manière, et c'est pour ça que des gens vont choisir plus la psychothérapie ou la psychanalyse ou l'hypnose, ou même d'autres voies. Et je pense que il y a de la base pour tout le monde, et je pense que ça serait bien qu'on s'entende de manière plus intelligente et plus adulte pour l'intérêt des gens concernés.
Très bien, nous arrivons déjà au terme de cet entretien.
Oui, ça passe vite.
Oui, ça passe toujours très très vite.
C'est déjà un état d'hypnose, ça. Quand on ne voit pas le temps passer, c'est un des premiers signes, en fait, qu'on est dans un état modifié.
Merci en tout cas, Patrick.
Merci à vous de m'avoir invité.
Donc Patrick, vous exercez sur Pornic, c'est très facile de vous trouver sur Internet.
Oui, pareil.
Donc je vous souhaite une très bonne continuation. Merci.
Okay.
Merci Patrick.
Merci à vous.
Continuation.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.